23h. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit. Radio Chablais, programme de nuit.
C'est chaud,
chaud. Sur le grill.
L'expo ZEP, c'est ici au château de Saint-Maurice depuis quelques jours maintenant. Une expo vraiment magnifique à venir voir. ZEP, bonjour.
Bonjour.
Alors, le château de Saint-Maurice est devenu une institution, entre guillemets, c'est presque une célébration normale de passer par ici. Ça fait partie de la boucle pour être reconnu dans les artistes, alors que vous êtes reconnu depuis déjà très longtemps.
Bah, c'est aussi un lieu qui s'est beaucoup démarqué avec la bande dessinée. Il y a eu de belles expositions de bande dessinée ici. Donc, et puis le directeur du musée, Philippe Duvanel, est quelqu'un avec qui j'ai collaboré plein de fois, et j'avais fait une grande exposition avec lui au musée des arts décoratifs de Lausanne il y a bientôt 15 ans maintenant. Donc c'est une belle manière de se retrouver.
Alors, c'est quoi pour vous les premiers souvenirs de BD ? Si on vous parle BD, les premières apparitions, c'est quoi, c'est qui ?
Oh la vache, c'est dur. Non mais déjà, j'avais de la chance parce que dans ma famille, on lisait de la bande dessinée. Parce que moi, j'étais petit dans les années 70. Et dans les années 70, c'était pas super bien vu. La bande dessinée, c'était vraiment un truc pour les gamins. Il y avait pas tant d'adultes que ça qui lisaient de la bande dessinée. Évidemment, à l'époque, l'idée de la bande dessinée exposée au musée, c'était de la science-fiction pure. Mais même déjà des adultes qui en lisaient, je me rappelle que mes parents étaient souvent convoqués à l'école parce que mes profs se faisaient du souci, disaient, écoutez, c'est inquiétant parce que votre fils, il lit que de la bande dessinée, c'est vraiment pas bien. Et je pense qu'on avait un peu le regard sur la BD qu'on aurait sur les jeux vidéo aujourd'hui, c'était un peu mais il fait que ça, il va forcément mal tourner.
Il n'y a pas d'avenir.
Il n'a pas d'avenir, ça c'est sûr. Et donc, mes parents lisaient un peu de BD, mon père surtout lisait de la BD. Et on avait à la maison, évidemment, Astérix, mais il y avait Lucky Luke, Gaston Lagaffe. Donc voilà, mes premiers souvenirs, c'est ça. J'ai lu des Astérix quand je savais à peine lire. Donc je les ai relus au fil du temps, en découvrant chaque fois d'autres niveaux de lecture. Et c'est aussi un truc qui m'a marqué dans la BD, c'est ce côté transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on peut rire de certains gags quand on est enfant, très jeune, où on comprend, on n'est plus sur le visuel. Et puis après, il peut y avoir des niveaux de compréhension qui grandissent avec l'âge. Et c'est assez cool. C'est aussi ce qui fait que la bande dessinée se transmet comme ça, de génération en génération.
Chose que vous avez d'ailleurs appliquée. On en a parlé avec Philippe Duvanel dans l'interview précédente. Vous avez appliqué ça aussi, vous, dans Titeuf. On peut le lire à différents niveaux de lecture et à tous les âges.
Alors, c'est les lecteurs qui l'appliquent. Hein. Nous, en tant qu'auteurs, on espère toujours, mais on ne sait jamais, on ne peut pas préméditer ça. Ça peut marcher ou pas forcément. Il se trouve que, ouais, je vois beaucoup de lecteurs. Je vois beaucoup d'anciens lecteurs de Titeuf, hein, des lecteurs d'il y a 25-30 ans, qui sont jeunes parents aujourd'hui, et qui viennent avec leurs enfants, et qui viennent me faire dédicacer parfois leurs propres albums, qui sont dans un état déplorable, pour les offrir à leurs enfants et les transmettre. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc très, très chouette.
Justement, qu'est-ce qui vous éclate quand vous faites des BD ? Ce soit Titeuf ou tous les autres, qu'est-ce qui vous plaît ?
Bah, moi, j'ai toujours adoré dessiner et raconter des histoires. Donc, pour moi, la bande dessinée, c'est un peu le métier. Et si j'étais orientateur professionnel, je dirais, ben vous, il faut faire de la BD, quoi. Ça semble vraiment taillé pour vous. Et donc, parfois, c'est plus le scénario qui m'intéresse, parfois plus le dessin. Pendant très longtemps, quand j'étais enfant, c'était surtout de dessiner et de faire rire mes copains avec mes dessins. Et c'est comme ça qu'on prend aussi conscience du pouvoir que peut avoir un dessin, de ce qu'il peut faire, déclencher chez les gens, les émouvoir, les faire rire. Et on a envie, quand on arrive à faire ça de temps en temps, évidemment, on a envie de faire ça tout le temps.
Titeuf, moi, quand j'ai commencé à lire ça à gamin, c'est le pote qu'on avait envie d'avoir, le pote avec qui on avait envie, clairement, de faire des conneries. Comment vous l'avez créé ?
Je pense que c'était aussi le pote que j'avais envie. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup moins téméraire que Titeuf quand j'étais enfant, mais j'étais souvent celui qui soufflait la mauvaise idée de trucs à surtout pas faire. Et je pense que j'ai gardé un peu cet esprit-là après, parce que souvent, quand on me disait « il faut surtout pas faire ça, il faut pas dessiner sur tel sujet, il faut pas faire ça », forcément, je pensais plus qu'à ça et j'avais envie de le faire. Donc, j'ai aussi mené ma carrière de manière un peu à contre-courant, et pour finir, ça m'a plutôt bien réussi, mais j'ai souvent pris des orientations qui n'étaient pas du tout les orientations qui étaient conseillées ni par le mainstream de l'édition, ni par la presse, ni par mon entourage parfois, qui me disait « mais fais surtout pas un album pour les adultes, tu es l'auteur de la jeunesse ». Et je trouve que c'est bien d'aller... ce qui est important toujours quand on est auteur, c'est peut-être le seul devoir qu'on a peut-être par rapport à ses lecteurs, c'est qu'on doit continuer à s'amuser, parce que ça, c'est communicatif. Si on s'emmerde, c'est aussi communicatif.
L'exposé, c'est en ce moment au château de Saint-Maurice jusqu'au 17 novembre prochain, château-saint-maurice.ch. On retrouve Zep d'ici quelques instants.
C'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
sur le grill.
Et nous, Cézep, dans le cadre de son expo à Saint-Maurice, qu'on retrouve maintenant.
Si j'avais 40 ans de plus et que j'avais fait de la bande dessinée dans les années 60, ça aurait été une autre histoire. Parce que à cette époque-là, si on avait la chance tout à coup d'avoir du succès dans une bande dessinée, eh ben, il fallait enfoncer le clou, il fallait faire toujours la même série, il fallait souvent engager même un studio pour vous aider, pour être plus performant, faire plus d'albums. Et moi, je pense que j'ai eu aussi une chance, c'est qu'un peu par hasard, Titeuf s'est retrouvé édité chez Glénat, qui était plutôt une maison d'édition de bande dessinée d'auteur. Donc, on m'a jamais proposé ce genre de truc, et on a toujours respecté un peu le côté, c'est un auteur, il fait ce qu'il veut. Donc, bon, il nous casse un peu les pieds avec ses caprices, mais il fait ce qu'il veut. Donc, tout à coup, il a envie de faire autre chose, il fait autre chose. Et on attend le prochain. Et c'est pas que j'ai envie, c'est pas du caprice, c'est juste que, à un moment, tiens, j'ai envie de raconter une histoire, dramatique ou une histoire plus politique ou de la science-fiction, et tout ne va pas forcément avec Titeuf, donc je vais développer un autre registre et puis le faire dans un autre registre, et le succès de Titeuf me permet aussi de faire ça, donc c'est plutôt bénef, ouais.
Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ici à Saint-Maurice? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer aussi en plus peut-être de simplement Titeuf?
Alors là, je suis vraiment laissé porter par Philippe Duvanel, qui est le directeur du musée et que je connais depuis longtemps et qui connaît très très bien mon travail. Donc il est venu chez moi, on a passé des journées à fouiller dans les archives, on a exhumé des choses, imaginons, on a ressorti des dessins de quand j'ai 4 ans et demi, donc on est vraiment remonté dans le temps très très loin. Et puis, c'est un exercice très bizarre de faire une expo rétrospective. Généralement, une expo rétrospective, c'est quand vous êtes mort. Parce qu'on peut faire une rétrospective qui est objective, on sait qu'il n'y aura plus rien. Tandis que là, depuis qu'on a fini de trier les dessins, moi j'en ai refait d'autres depuis, donc ça pourrait ne jamais s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un regard extérieur qui dit, ok, moi je vais montrer ça, je vais mettre ça en perspective. Moi je lui ai fait confiance, et à l'arrivée, je suis très content parce que c'est une sorte de... C'est une impression un peu bizarre, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps, c'est-à-dire que je passe dans des salles où je vois ma vie il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et l'importance est mise à certains dessins, pas à d'autres, donc on comprend aussi, je crois que lui a bien compris aussi le cheminement, ma vie de dessinateur, ce qui s'est passé, donc il montre ça. Et puis l'idée, c'est aussi à la fois de montrer des choses, des pièces un peu incontournables que les gens attendent de voir ici, mais aussi des choses que les gens n'ont jamais vues. Donc on a vraiment exhumé des trucs. Même là, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un historien de la BD qui suit mon travail depuis longtemps, qui te l'a dit, oh, mais j'ai jamais vu ça, les premiers dessins de Titeuf. Donc on a retrouvé vraiment des choses, je pensais que j'avais plus. On a retrouvé des scénarios de Titeuf faits par Chapat, faits par Valiot, enfin pour le premier album, où on était une petite équipe de copains, où tout le monde s'entraidait un peu, donc je suis retombé là-dessus, c'était des fouilles quasi archéologiques.
Et du coup, ça fait du bien en fait, vous êtes fait plaisir j'imagine avec ça. L'avenir de Zeb, c'est ma dernière question, l'avenir de Zeb c'est quoi? Parce que justement, c'est pas fini, ça c'est une rétrospective, on en refera sûrement une tous les 10 ans s'il faut.
Ouais, c'est ça, moi j'ai déjà, je suis un enfant gâté par rapport à ça, enfin je sais pas si on peut dire enfant gâté, parce que chaque fois que je fais une expo, je me dis, c'est la dernière, ça rend trop de boulot, mais depuis 2004, j'ai eu des expos rétrospectives, donc ça doit être, je sais pas, la 6 ou 7e, donc j'ai déjà eu ce genre d'exercice plusieurs fois. Mais effectivement, il y a toujours ce côté de dire, bon, ok, c'est comme un bilan, donc ça veut dire qu'après, il faut faire autre chose, il faut changer de métier. Ou...
Faire de la musique.
Alors, c'est une année où je consacre beaucoup de temps à la musique, pour la première fois depuis très longtemps. Et puis, je vais être un peu prévisible, mais je pense que je vais continuer à faire de la bande dessinée aussi.
franchement, tout ce qu'on espère. Merci beaucoup, Zep.
Merci.
Zeb, que vous retrouvez donc au château de Saint-Maurice, une magnifique exposition qu'il faut vraiment, vraiment aller voir jusqu'au 17 novembre, cette exposition. Et puis on a parlé musique, on vous rappelle que c'est avec le groupe The Woo, qu'il a avec sa chérie, et je vous conseille aussi d'aller écouter parce que c'est des très, très jolis morceaux.
C'est chaud. Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde, ça souffle, c'est normal. C'est Dorena, ou Doren pour les intimes, n'est-ce pas Yasmine?
Toujours Doren.
Toujours Doren. Bon, je crois savoir ici que ben on discutait que le caillou il était assez important. Il y avait des ardoises. Qu'est-ce qui faisait que l'ardoise soit aussi bien d'ailleurs?
C'était notre ardoise d'Orena, elle était reconnue parce qu'elle était extrêmement pure. Donc on voit, elle a une belle couleur bleue, elle n'a pas de petits points blancs qui est du calcaire, qui fait que l'ardoise d'Orena, elle était d'extrêmement bonne qualité. Donc elle durait beaucoup plus longtemps que les autres sur les toits, quoi. Il y avait, elle dure des... Voilà, on a des toits qui datent de très longtemps.
Et est-ce que plus dur est l'ardoise, plus dur est la tête aussi des diablerins et diablerennes?
Un peu.
Bon, donnons envie aux gens de venir par ici. Qu'est-ce qu'on a comme événement ou activité à ne pas manquer?
Ah, alors le prochain événement qu'on a, c'est la course pédestre du trophée du Sécaro. C'est le 8 juin, le samedi 8 juin prochain. C'est notre 40e édition. Non, oh. 20e édition.
Ah, 20e, parce que c'est les 40 ans de Radio Chablais. J'ai dit, attends, bah.
Alors attends. C'est notre 20e édition, mais la première édition était en 1978.
Oh, bah.
Alors, il y a eu 10 Comment éditions, 1978 à 1988. Et puis, il y a, en 2012, on s'est retrouvé une petite équipe de copains. On se rappelait quand on était petits, on se disait, oh, c'était trop bien, cette course pédestre et tout, si on la relançait. Et on a relancé ça autour d'un bon verre. Et voilà, on est, je dirais, la 10e édition de la deuxième fois. On a gardé le tracé historique.
Oh, joli.
Ouais, c'est un tracé assez difficile. Donc, on relie la maison d'école à la cabane du Sécaro. Donc, c'est 1500 mètres de dénivelé pour 7,5 km.
Ah, quand même.
Ouais, pour le grand parcours. Après, il y a un petit parcours qui va de Dorena à l'Est, qui permet aux familles de monter en téléphérique et puis d'aller rejoindre les enfants sur la ligne d'arrivée. On a une marche aussi parce qu'on vieillit un petit peu. Les anciens coureurs vieillissent un petit peu. Donc, on a une marche. Donc, on va faire une fête pour cette 20e édition. Voilà, quand on va faire un peu la fête toute la soirée aussi. Et puis...
Quelle date déjà ?
Le samedi 8 juin. Et puis on verra si les records, aujourd'hui c'est Rémi Bonnet, là, qui est bien connu, et Maud Matisse qui ont les records. Donc on verra si quelqu'un les bat.
Ou avec un peu de chance, ils viennent exploser leurs propres records, ça ne m'étonnerait pas non plus. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ?
Alors, quelque chose qu'il n'y a pas dans tous les villages, c'est la course de tracteur tondeuse. Est-ce que tu as un tracteur tondeuse?
Malheureusement pas, mais je pourrais en trouver à un moment donné.
Voilà, donc le 7 septembre, c'est aussi la 10e édition d'une course de tracteur tondeuse. Donc ça a germé aussi dans l'idée un peu folle de quelques diablerins. Vous avez une tondeuse, tracteur. Voilà, il y a quelques petites spécificités techniques, donc enlever les couteaux et tout. Et
puis, ah, quand même, oui.
Ouais. Et puis, vous tournez dans un pré préparé. C'est une boucle de à peu près 400 mètres. Il y a, c'est 5 manches. Et puis, vous y allez. C'est super chouette. C'est en équipe. Hein. Il faut être en équipe pour conduire.
Comme les 24 heures du Mans, en fait.
C'est un petit peu ça. Mais c'est vraiment chouette. On a vu aussi parfois des tracteurs tondeuses électriques s'essayer. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais c'est surtout super bon enfant et il faut venir les voir parfois dans la boue et tout. Mais c'est vraiment des fans. Et puis si ça vous démange, je suis sûre que le comité il est prêt à vous donner quelques astuces.
Il va falloir qu'on vienne en fait, c'est dommage ça. Et surtout que cette histoire, moi, elle me botte. Les concours de tondeuses à gazon.
Ouais, des tracteurs tondeuses, donc c'est assis.
Tracteurs tondeuses.
Ah ouais, assis dessus et tout. Et c'est génial, ça peut aller super vite. On a eu, il y a quelques années, il y avait des professionnels de cette course qui sont venus nous montrer des machines. Ben, faites vraiment que pour la course. Mais là, allez-y avec votre tondeuse et tout. Et puis faites-vous plaisir.
Le Lavo allait tracasser, Dorena allait tracteur tondeuse.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Radio Chablais. Programme de nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, on fait un focus sur les tomates. Avec les températures qui sont remontées en flèche ces derniers jours, j'ai eu envie de rester au soleil. On se comprend, c'était au soleil avant aujourd'hui, parce que quand j'ai regardé par la fenêtre ce matin, j'étais un peu déprimée. Mais bon, j'avais envie de rester au soleil avec une boisson fraîche, de la bonne musique et une petite salade de tomates mozza. Bon, alors, je sais que la tomate, c'est pas encore tout à fait de saison, mais voilà, ce week-end, il faisait beau, puis dit, bah, j'ai voulu manger des tomates, voilà. Et puis, quand j'en ai parlé autour de moi, ça a soulevé un petit débat, à savoir, est-ce que la tomate, c'est un fruit ou est-ce que c'est un légume? Et je peux vous dire que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur les tomates. C'est le cas de le dire. Genre, la tomate, c'est un fruit, c'est pour ça qu'on l'appelle la pomme d'amour. Ou encore, bah, c'est celle-là qui m'a fait le plus rire, c'est, si la tomate était un fruit, on en ferait des gâteaux à la tomate. Alors là, j'ai envie de vous dire, la carotte, c'est pas un fruit, et pourtant on en fait du gâteau avec. Alors j'avoue, je trouve pas ça très bon, mais bon, chacun ses goûts, on n'est pas là pour juger. Et c'est vrai que dans pas mal de supermarchés, quand on doit aller peser ses fruits et ses légumes soi-même, il y a souvent trois catégories. Il y a les fruits, les légumes et les tomates. On sent ici toute la diplomatie dont on fait preuve ici en Suisse. Donc, ma curiosité ayant finalement été titillée, bah, je suis allée comprendre l'origine de ce débat. Et en fait, la tomate est considérée comme les deux. Tout dépend du point de vue. C'est-à-dire, d'un point de vue culinaire, bah, la tomate, c'est clairement un légume. Vraiment, les cakes à la tomate, ça devrait toujours rester salé, ça devrait jamais être considéré comme un dessert. Enfin, voilà, ça c'est mon petit grain de sel. Par contre, d'un point de vue botanique, la tomate, c'est un fruit. Tout simplement parce qu'en fait, elle fait partie de la plante, elle contient des graines et c'est le résultat de la transformation d'une fleur. Pardon. Dans le jargon du potager, on appelle tomate un légume-fruit, ce que je pense est un bon compromis. Mais là où je suis tombée de ma chaise, c'est que c'est pas le seul légume-fruit du potager. Bah, figurez-vous que les haricots, les poivrons, les aubergines, les courgettes ou encore les avocats sont eux aussi considérés comme des légumes-fruits. Bon, les avocats, je savais qu'on pouvait en faire des desserts, c'est-à-dire que dans des recettes, l'avocat remplace le beurre parce qu'il a pas un goût hyper prononcé. Mais alors pour les autres, j'avoue que j'en suis restée baba. Alors à titre de contre-exemple, les cerises, les pommes sont appelées des fruits-fruits. Mais la rhubarbe, elle, par contre, c'est un légume-légume. Alors voilà, comme ça, on peut se manger une tarte à la rhubarbe pour le dessert. On pourra dire qu'on a consommé notre dose journalière de légumes. Voilà, voilà.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Alors comme je disais, l'expression du jour, c'est comme deux ronds de flanc. Alors on me l'a sorti récemment cette expression et je suis restée bête parce que je la connaissais pas. Et si vous êtes dans le même cas que moi, eh bien comme deux ronds de flanc, ça veut dire être surpris, être très étonné, être sans voix, être stupéfait. Je peux vous en donner encore tout plein des synonymes. Et ça m'a donné envie d'aller chercher l'origine de cette expression parce que pour moi les flancs, évidemment c'est le flanc, le dessert. Donc je comprenais pas exactement qu'est-ce que ça avait à voir là-dedans. Et de ce que j'ai pu trouver comme info, eh ben cette expression, elle daterait du XVIe siècle. À l'époque, en fait, on utilisait le terme flanc pour parler des disques de métal, outils pour fabriquer des pièces de monnaie. Et l'expression deux ronds de flanc ferait du coup allusion aux yeux ronds d'une personne stupéfaite. Puis là, du coup, ça me parle un peu plus. Il y a une autre expression, celle-ci, elle date du 19e siècle, qui dit que les ronds, ça désigne l'argent. Il y a des choses qui n'ont pas changé, hein, même en argot. Et que le flan serait une alternative bon marché et populaire au baba, la pâtisserie donc, qui avait déjà donné l'expression être baba, ce qui veut dire exactement la même chose, hein, ça veut dire être étonné, être bouche bée. Comme quoi, il y a énormément d'expressions qui viennent de la bouffe quand même, hein, le baba au rhum, le flan, mais aussi le soufflé. Alors ça, je l'ai découvert, je le connaissais pas, mais effectivement, on dit qu'on est complètement soufflé dans le langage familier, ça veut dire être vraiment surpris, être totalement sur le cul, être époustouflé. Enfin, tout ça, je suis sûre que ça vous laisse vous aussi comme deux ronds de flan. Voilà, voilà.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Voici les titres du journal.
Feu vert pour le projet de fusion de Vétochion et Montreux. Mardi soir, les deux conseils communaux ont donné leur accord à la convention de fusion, ouvrant la voie à un vote populaire en septembre prochain. C'est une association qui révolutionne la viticulture en la rendant plus durable. Yvonne Grandeur Nature attire l'attention d'autres spécialistes du vignoble. Le prestigieux domaine de Sassicaia a fait part de son intérêt à adopter ce modèle durable. Le Tour du Chablais a explosé hier son nombre record de participants. Ils étaient plus plus de 1700 à courir dans les rues d'Aigle.
Pour la météo, un temps couvert. Pour aujourd'hui, un temps changeant. Pour demain, météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Axel, bonjour à toutes et tous. Vétochion et Montreux donnent leur feu vert au projet de fusion. Mardi soir, les deux conseils communaux se sont réunis simultanément pour se prononcer sur la convention de fusion des deux communes. Malgré l'opposition de la municipalité de Vétot, le conseil communal l'a approuvé avec 25 voix, 8 contre et une abstention. De son côté, le législatif de Montreux, en accord avec la municipalité, a massivement soutenu le projet avec 89 voix contre une opposition. Le retour du syndic montreusien Olivier Kfeller.
De notre côté, évidemment, il n'y a pas d'enjeu. On a tout fait pour respecter la volonté populaire des Vétosiens. C'est-à-dire la demande vient de la population de Vétot. Et puis, aux autorités de Montreux, que ce soit le conseil communal ou la municipalité, il nous a véritablement tenu à cœur que l'on donne une réponse pertinente aux citoyens de Vétot. Et c'est pour ça que nous avons travaillé durant 2 ans pour faire cette convention où vraiment c'est le fruit de longues discussions pour que tout le monde soit respecté. Et de l'avis même de la municipalité de Vétot, la convention est parfaitement applicable, elle est respectueuse de l'histoire de Vétot, de son identité. Et ça nous tient véritablement à cœur parce que je pense que ces deux communes qui ont des histoires fortes, elles doivent être respectées toutes deux en cela.
La convention de fusion, ainsi validée, sera soumise à un vote populaire le 22 septembre prochain. Si les habitants des deux communes l'acceptent dans les urnes, sa mise en œuvre aura lieu d'ici au changement de législature en juillet 2026. Dans le cadre des recherches entreprises suite à l'incendie qui a complètement détruit un bâtiment commercial hier matin à Viona, une personne a été retrouvée sans vie dans les décombres. L'identification formelle de la victime est en cours.
Le syndicat chrétien du Valais a annoncé hier l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail pour le personnel des établissements de soins longue durée.
Plus de 7000 employés du secteur pourront bénéficier d'une amélioration de leurs conditions de travail. Le SCIV a lancé en parallèle un appel à la Fédération des communes valaisannes concernant le personnel des structures d'accueil de jour de l'enfance. Sans nouvelles de la part de la Fédération des communes, les collaborateurs attendent des réponses à la suite du dépôt d'une pétition en février dernier concernant une éventuelle CCT, une situation qui surprend Bernard Tissière, coordinateur pour le SCIV.
J'avoue franchement que j'ai de la peine à comprendre et j'espère qu'ils entendront ce signal et puis qu'on puisse rapidement se mettre à table déjà pour discuter. Dans la chronologie, c'est surtout d'avoir maintenant assez rapidement, j'ai envie de dire avant la fin du mois de mai, une réponse de leur part de manière à ce qu'on soit fixé. Mais c'est bien clair aussi que suivant la réponse, on n'en restera pas là parce que on va pas baisser les bras et surtout quand on a du personnel aussi déterminé que ça.
Des propos recueillis par Xavier Borgeau.
Yvorne poursuit son chemin vers une viticulture plus durable.
Créée fin 2019, l'association Yvorne Grandeur Nature ambitionne de transformer le domaine chablaisien en un exemple de viticulture éco-responsable. Composée de vignerons et spécialistes du vignoble, elle vise entre autres à obtenir l'appellation Yvorne Grandeur Nature, gage de durabilité et rentabilité commerciale. Pour concrétiser ce projet, l'association collabore avec la Haute École de Changin. Après différents projets, comme l'élaboration d'un cahier de mesures destiné à tous les vignerons membres, l'association commence à se faire connaître. Mieux que ça, des domaines de renommée internationale ont montré leur intérêt à suivre le même modèle. Les précisions du président d'Yvorne Grandeur Nature, Philippe Jex.
On a eu la surprise d'être contacté par un domaine extraordinairement prestigieux en Italie, qui est le domaine Sassicaia, qui avait entendu parler de notre projet Yvorne Grandeur Nature, avec qui on a eu des contacts étroits, des conférences, des téléphones, et qui pourrait, dans le fond, utiliser ce modèle appliqué à Yvorne Grandeur Nature, avec ses cahiers des charges, tous les projets que nous avons mis en scène, en se disant que peut-être ce modèle-là pourrait les intéresser pour ce domaine incroyable de Sassicaia, qui ne concerne d'ailleurs pas que la vigne, puisqu'il y a de la forêt, il y a des grandes cultures, il y a vraiment des prairies. C'est un énorme domaine en Toscane. Évidemment, pour nous, c'est assez flatteur de se rendre compte que notre modèle pourrait être pris par des grandes institutions étrangères comme Sassicaia.
Prochaine étape pour Yvorne Grandeur Nature, l'organisation de la deuxième journée de la biodiversité. Agendée ce samedi, elle propose à la population un parcours ludique à travers le domaine de 10h à 16h. Qui sème la route récolte le trafic. C'est la formule lancée ce matin à Berne par l'association Transport et Environnement qui milite pour davantage de mobilité douce et en transport public. L'ATE anticipe ainsi la votation qui aura probablement lieu le 24 novembre sur l'extension des autoroutes contre laquelle elle a fait aboutir le référendum. Ce qui est essentiel aux yeux de la vice-présidente de l'ATE, la genevoise Isabelle Pasquier, c'est de faire aujourd'hui les bons choix d'infrastructures de mobilité.
Le choix des infrastructures, c'est effectivement quelque chose de décisif. Parce qu'on a aujourd'hui un constat, c'est que notre mobilité, elle cause un tiers des gaz à effet de serre, essentiellement le trafic individuel motorisé. Et c'est un des seuls secteurs qui n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on doit absolument trouver des moyens pour, en fait, proposer davantage d'alternatives pour que la population puisse choisir des modes de transport plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est le choix des infrastructures dans lesquelles on va investir. Et si on regarde à ce jour, le Parlement prévoit d'investir davantage dans les routes, 35 milliards, que dans le rail, 22. Donc là, pour nous, il y a un enjeu clair, ça doit être une priorité dans l'autre sens. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'investir dans les infrastructures de transport en commun et de mobilité douce.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Hubin. L'ATE milite par ailleurs pour le 30 km/h dans les localités. L'organisation menace de lancer le référendum si le Conseil des États devait confirmer la réduction de la liberté des villes de faire passer certaines routes et certains quartiers à 30 km/h. 1749, c'est un record. Jamais le Tour du Chablais n'avait vu autant de participants qu'hier à Aigle sur la cinquième étape de la manifestation.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Elle a avalé le parcours de 8,3 km et près de 200 mètres de dénivelé en 27 minutes et 6 secondes. Le résident d'Aigle était très fier de briller à domicile.
Pour moi, c'est super important. En fait, cette année, je le fais non seulement parce que j'habite à Aigle, mais aussi parce que je suis en train de devenir suisse. Donc, normalement, l'année prochaine, je serai suisse. Et pour moi, c'est un peu un moyen de montrer aussi que je fais partie de la région. On a organisé l'Open Down il y a 10 jours à Aigle, qui était la première édition. Et c'est un peu un moyen pour moi de m'intégrer et puis profiter de la fête et de cette belle région.
Dorian Marchal n'était pas le seul à être heureux sur la ligne d'arrivée. 130e, le syndic d'Aigle, Grégory Devaux, était touché de voir le nombre de personnes que le Tour du Chablais pouvait attirer.
Je crois que voilà, la plus grande chose à prouver, c'est une magnifique course. Il y en a des très bons coureurs, viennent au moins sur une, deux, voire même toutes les étapes. On a des grands gars comme Costa, comme Damien Hediger, qui est notre chef service, qui fait toutes les étapes et puis qui se sort bien. Donc ça rayonne loin la ronde et je pense que c'est bon pour la région, c'est bon pour le Chablais.
Vous êtes fier de votre course quand même?
Ouais, je suis assez content. Je n'avais pas d'objectif. Après, voilà, 4,28 de moyenne au kill avec les montées. Je suis assez content.
Il ne reste plus qu'une étape sur ce 37e Tour du Chablais. Elle aura lieu mercredi prochain au Diableret. Un sujet signé Thierry Nicolet.
Course à pied toujours, la course des Deux Chapelles lancera comme à l'habitude la saison des épreuves de montagne ce dimanche à Monthey.
Au programme de cette 7e édition, 3 parcours différents destinés aux élites, aux populaires et aux enfants. Les premiers cités auront droit à un tracé de 9 km agrémenté par 999 mètres de dénivelé positif entre la chapelle du Vieux-Pont et les Cerniers. Les bénéfices de la manifestation organisée par le Panathlon Club Chablais seront versés à de jeunes athlètes de la région. L'an dernier, ils étaient 12 à être parrainés. Les précisions de Caroline Dayen, organisatrice de la manifestation.
Le budget 2023, c'était 12 000 francs. On a soutenu 12 jeunes à hauteur de 1 000 francs. Et puis on essaye chaque année, via nos diverses actions, l'argent qu'on récolte tout au long de l'année, de pouvoir en soutenir un maximum, puisqu'on a de plus en plus de candidatures qui rentrent. Il y a peut-être 4-5 ans, comme ça, on devait aller chercher les jeunes pour les parrainer. Et puis maintenant, on est plutôt à se dire, mon Dieu, on va trouver tout cet argent pour pouvoir les soutenir et les aider. Donc on voit qu'on a un rôle à jouer, et puis cette course fait partie des clés pour y arriver.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Pour le moment, ils sont 200 coureurs à s'être inscrits. Ils devraient être environ 300 dimanche, comme en 2023.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.
Radio Chablais, programme de nuit.
Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Léa Béguin, Philippe Canel, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est la première fois dans cette émission qu'on multiplie les micros, hein, et c'est tant mieux. On va parler avec vous de cette exposition à Saint-Maurice, Femmes et artistes après 1930, à la Fondation Atelier d'artistes. Vous y êtes, vous œuvrez tous les deux comme co-commissaires de cette exposition. Ça va être l'occasion pour nous, on y est, hein, on est à la Fondation Atelier d'artistes à Saint-Maurice. C'est le lieu choisi, évidemment, c'est une évidence. Et puis, on va parler de cette exposition, mais aussi du but et des défis de cette fondation. On va peut-être commencer par la décrire avec vous, Léa Béguin. C'est quoi la Fondation Atelier d'artistes?
Oula, grande question.
Petite réponse.
Ouais.
Alors, non, on a le temps.
Oui, mais alors c'est une fondation qui a été fondée en 2004. Philippe, tu me dis si je me trompe, hein, mais...
Oui, oui, en fait, c'est 20 ans.
Ça nous met en effet ce chiffre de 20 ans sur lequel on reviendra peut-être.
Elle est adulte.
Et donc, il y a vraiment, avec cette fondation Atelier d'artistes, un désir de conservation des œuvres, en particulier des fonds d'atelier d'artistes qui viennent de Suisse romande. Et depuis 2018, la fondation Atelier d'artistes a des bâtiments historiques de Saint-Maurice. Et depuis 2021, il y a des expositions qui sont organisées dans ces bâtiments. Et chaque année, tous les deux ans, en fait, il y a aussi une publication qui sort. Donc là, on est à la troisième exposition qui se nomme justement « Femmes et artistes après 1930 ».
Alors, on reviendra assez largement sur cette exposition, sur l'histoire aussi que vous interrogez, hein, l'histoire des femmes dans l'histoire de l'art, un peu masquée. Hein, on y reviendra tout à l'heure. Quel est le but quand cette fondation se crée en 2004? Vous faites partie des membres fondateurs, Philippe Canel. A priori, comme ça, moi, je me suis dit, mais c'est le boulot des musées, ça, de prendre les œuvres et de les conserver.
Oui et non, mais les musées ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de préserver des fonds complets d'ateliers. Donc généralement, les musées écrèment et choisissent des pièces qui ont sens par rapport à leur collection. La Fondation Atelier d'artistes a une mission qui est intermédiaire entre les institutions et d'autres institutions. C'est tout simplement de préserver des fonds d'ateliers et de la documentation de façon à éviter que les œuvres d'artistes soient détruites trop rapidement ou dispersées et de donner une seconde chance à des artistes qui ne sont pas évidemment
Picasso,
voilà. Félix Vallotton ou Ferdinand Hodler, mais qui sont des artistes importants.
Suisse,
et là, je pourrais dire des artistes importantes dans le cadre de cette exposition.
Il faut dire que les héritiers d'artistes se trouvent devant un problème. Hein. Encore une fois, quand on ne parle pas de Picasso ou de Hodler, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein? C'est pas forcément ça n'a pas forcément une valeur marchande, ça n'a pas forcément... et puis ça coûte, quoi, de garder des œuvres.
Ben, le problème principal rencontré, c'est que souvent ces œuvres ou ces ateliers, ces fonds d'ateliers sont dans des immeubles et la valeur immobilière est beaucoup plus élevée que la valeur mobilière. Donc souvent, les héritiers doivent vider l'espace.
Liquider les lieux, bien sûr.
Les lieux, en effet. Et c'est à ce moment-là que souvent les choses sont détruites de manière un peu trop rapide, irrationnelle ou tout simplement dispersées.
Et triste.
Non, mais enfin, c'est une question qu'on va poser, d'ailleurs, si on peut le mentionner, le 10 octobre, ici, dans le cadre d'une rencontre qu'on va organiser autour de la question du patrimoine, avec des personnalités majeures dans cette question-là. Et puis, on va poser justement cette question-là du patrimoine. Dans le fond, quelles sont les limites de la conservation et de la destruction? Parce que les deux vont de pair.
Bon, il y a quand même, Léa Béguin, une définition de ce qu'est un artiste. Hein. Si mon oncle, enfin je vais pas dire mon oncle, parce que mon oncle était vraiment un artiste, donc c'est pas le bon sujet. Mais voilà, mon beau-frère, j'en ai pas, donc très bien. Mon beau-frère peint le dimanche, même si sa famille a envie de conserver ça, il va pas forcément pouvoir venir à vous. Il y a une définition de ce qu'est un artiste, il y a une reconnaissance quand même.
C'est ça, mais la Fondation Atelier d'artistes, c'est vrai, a mis une définition pour pouvoir justement accepter ou non aussi
des fonds.
Et justement, il y a le fait, par exemple, d'avoir fait des écoles d'art et aussi avoir exposé. Donc oui, il y a quelques critères, en fait, quand même, pour pouvoir accepter ces artistes.
Des critères qui sont repris d'ailleurs de Visarté, qui est l'association des artistes, qui est une association fêtière nationale, mais avec des antennes cantonales. Il y a Visarté Valais, Visarté Vaud, Visarté Fribourg. Et donc, on s'est calqué sur ces critères-là de définition de ce qu'est un artiste.
On parle toujours de peinture ?
Non.
Non ? Vous avez des sculptures aussi dans vos fonds, par exemple ?
Oui. Oui. Mais pas de femmes.
Ah bon.
Pas encore.
Non, pas encore. On a de la tapisserie, on a de la gravure, ouais. On a.
Non, je pose cette question par les soucis de conservation, évidemment. Hein. Stocker des tableaux, ça a déjà ses exigences. Des sculptures, ça demande encore plus d'espace, plus de défis.
Oui, on a des dizaines de milliers de dessins. Juste pour vous dire les choses, sans vouloir se vanter, parce que c'est un des problèmes rencontrés par la Fondation. Cette Fondation possède plus d'œuvres que les musées cantonaux du Valais et musées cantonaux vaudois réunis.
Ah oui?
Oui. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur des collections. Mais cette masse d'œuvres est légitimée par le fait que, justement, la Fondation n'écrème pas. Mais elle estime que pour raconter des histoires et préserver l'œuvre d'une ou d'un artiste, il faut avoir une certaine masse et de la documentation.
Alors, justement, vous disiez, vous avez utilisé ce mot de fond d'atelier. Hein. C'est ce que vous venez de nous dire, là, dans ce que laisse le peintre ou la peintre, puisqu'on va parler des femmes. Y a des tableaux, il y a aussi peut-être des esquisses, des choses qui ont été des objets de travail pour lui avant l'œuvre finale, des carnets, des dessins, tout ça.
Il y a de la correspondance, il y a des contrats. Il y a des photographies, il y a
des carnets aussi.
Des carnets. Mm-hmm. Et en définitive, si on veut faire connaître une ou un artiste, on a besoin de tout ce matériel-là. Mm-hmm. Surtout pour des artistes qui n'ont pas eu leur catalogue raisonné, leurs expositions, leurs monographies. Donc c'est une nécessité absolue que d'avoir cette documentation. Donc la Fondation est à la fois un musée, puisqu'elle préserve des œuvres de manière pérenne, définitive donc. Elle est une archive, parce qu'elle conserve de la documentation, et elle est en même temps une galerie d'art, et ça peut paraître un petit peu choquant.
Alors on va parler justement œuvres. De... Ah, oui. Elle vend aussi.
Ah, elle ah, vend oui. des œuvres, ah, oui. Oui. Elle vend, en effet, dans les donations qu'elle reçoit, la conservation décide de ce qui est inaliénable, c'est-à-dire conserver sur le plan muséal pour l'éternité, on l'espère. Mmh. Et puis, ce qui peut être aliénable. Alors, ça peut paraître choquant, mais en fait, c'est logique.
Bon, a priori, vendre des œuvres d'art, c'est pas choquant. Donc,
pour une fondation à but non lucratif, ouais. Vendre des œuvres d'art à deux missions, deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire un petit peu d'argent. Quand on est à but non lucratif et qu'on n'est pas soutenu de manière structurelle, il faut bien que l'argent vienne de quelque part, d'une part. Et puis d'autre part, c'est la mission d'une fondation de redistribuer dans l'espace public des œuvres d'artistes qui ne sont plus distribuées de cette manière-là. Donc les artistes n'ont pas créé pour être stockés dans des caves. Ils ont créé pour être vus dans l'espace privé et public.
Mon étonnement, c'était plutôt, c'est au moment de recevoir le fonds que se décide ce qui va se vendre, ce qui ne va pas se vendre. Dans une exposition comme celle dont nous allons parler dans la deuxième partie, il n'y aura pas de petits points verts et de petits points rouges. A priori, ce sont des œuvres inaliénables, c'est le mot que vous avez utilisé.
C'est ça, oui.
Ouais. Bon, Léa Béguin, quand j'imagine un chercheur, une chercheuse, historien, historienne de l'art, vient vous voir en disant, moi j'aimerais faire mon doctorat sur une des artistes qui est exposée là, c'est la fête du coup, la mission est remplie. Vous pouvez mettre à disposition ce fonds.
Ah oui, alors la Fondation Atelier d'Artistes serait extrêmement contente de pouvoir justement mettre le processus créatif à disposition, les archives, ses œuvres. Donc oui, le but c'est justement que l'artiste, que ces artistes femmes, mais aussi hommes, hein, de cette fondation soient connus et que des recherches soient faites sur ces artistes, bien
vous
sûr.
Vous êtes prof d'histoire de l'art, non, Philippe Canel?
Oui, oui. Oui.
Vous aiguillez un peu vos étudiants aller vers la fondation.
La première publication qui s'intitulait Redécouverte en 2021 est une publication dont les notices ont été rédigées par des étudiants, qui était une expérience intéressante pour eux parce qu'ils avaient pour la première fois la possibilité de travailler sur les œuvres elles-mêmes et pas sur des reproductions, de travailler sur de la documentation et de travailler sur des artistes sur lesquels ils devaient souvent produire le discours pour la première fois.
Mmh, voilà, étudiant de l'Université de Lausanne, hein, c'est là que vous enseignez.
L'Université de Lausanne, oui, mais Léa vient de l'Université de Neuchâtel, elle s'est spécialisée en muséologie, elle vous en parlera plus longuement.
Bon, ben, moi justement, hein, avant de parler de cette affaire de montrer les œuvres, ça sera l'objet de la deuxième partie où on va beaucoup parler de cette exposition, il y a la conservation des œuvres. Hein. Encore une fois, quand on parle du rôle des musées, ben, on sait qu'ils ont des endroits de conservation, les ABG, extrêmement climatisé, extrêmement ouais, avec des contraintes fortes, hein, pour que les œuvres ne se dégradent pas. Mm-hmm. Alors voilà, une fondation à but non lucratif, ce sont des moyens difficiles, j'imagine, que ceux qu'exige la mission que vous vous êtes donnée.
Oui, mais heureusement, on a Walter Schopp, qui était l'ancien conservateur du musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, qui est là aussi pour gérer toutes ces questions. Et donc, effectivement, on a des lieux qui permettent d'accueillir...
Donc, les locaux ici à Saint-Maurice, voilà, où nous sommes, il y en a d'autres aussi loin de l'espace d'exposition. Hein.
Oui, alors maintenant, dans Saint-Maurice, on a d'autres lieux un peu qui commencent à s'accumuler.
Oui, mais la fondation ne joue pas au Monopoly, disons. Il se trouve qu'on a eu... Alors, c'est une histoire un peu complexe, mais qu'on a pu acquérir cet ensemble d'immeubles sur la place centrale de Saint-Maurice, en face de l'abbaye qui abrite un autre trésor. Oh. Il n'y a pas que le nom.
Avec ses défis de conservation.
Il y a celui d'en face. Ouais. Donc, ce sont des bâtiments souvent anciens, qui datent du XVIIe siècle. On dit même que Napoléon aurait passé une nuit dans un de ces bâtiments, je ne sais pas.
Mais en tout cas,
ce sont des bâtiments qui, du point de vue des conditions de stabilité, de température et hygrométrique, sont très bons.
D'accord. Donc, pas besoin de trop de technologie supplémentaire, disons, pour conserver ces œuvres.
Non, la qualité climatique, l'hygrométrie de toutes les pièces, là où sont stockées les œuvres, est régulièrement vérifiée et elle est très stable.
Voilà. Alors, on va venir dans la deuxième partie de cette émission à l'autre mission, hein, celle que tout un chacune, peut voir. C'est celle de montrer, hein, ces œuvres, justement, et c'est l'objet de cette exposition qui est à voir jusqu'au 7 juillet de année. On en parle dans la deuxième partie.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, nous sommes de retour dans ces locaux agonois de la Fondation Atelier d'Artistes avec nos invités Léa Béguin et Philippe Quesnel, qui tous les deux ont assuré l'organisation de cette exposition « Femmes et artistes après 1930 ». On va en parler. Alors, il y a trois notions à aborder, c'est femmes, c'est artistes et c'est après 1930. On va commencer par la dernière, Léa Béguin. Pourquoi cette date, elle a quelque chose de particulier? C'est un passage?
En fait, c'était à partir de cette date-là qu'on a des œuvres des artistes, donc il a fallu un moment mettre une date,
voilà.
Et du coup, c'était ce titre qu'on a donné.
Bon, j'ai regardé un peu ce que j'ai trouvé. Hein. On va voir qu'un des objets de cette exposition, justement, on ne trouve pas grand-chose sur ces femmes artistes, mais enfin, il y en a qui sont nées au tout début du siècle, qui avaient donc une trentaine d'années après 1930, d'autres qui sont encore en vie. Hein,
oui, on en a 6 qui sont encore en vie. Et 4 qui sont encore actives.
Bon, qui sont-elles ces femmes? On va peut-être pas toutes les citer, mais Philippe Quesnel, des femmes peintres pour la plupart?
Pour la plupart peintres, avec beaucoup de dessinatrices et des graveuses. La gravure joue un rôle important dans les carrières féminines. Un petit peu comme d'ailleurs la vidéo jouera un rôle important dans les années 1970. L'art vidéo sera vraiment pris, approprié
par les femmes
comme un instrument de revendication et comme un instrument d'expression artistique. La gravure joue ce rôle
On va y arriver tout de suite. Hein. Il y a une invisibilisation des femmes dans le monde de l'art. On va laisser l'économie, la politique à leurs problèmes dans ce créneau-là, mais dans le monde de l'art, c'est assez clair. En marchant pour venir à vous, je me disais, mais quelles sont les femmes artistes du XXe siècle que je connais? Alors, j'ai pensé à Camille Claudel, mais c'est grâce au film, c'est grâce à Isabelle Adjani. Et grâce à Rodin, bien sûr. J'ai pensé à Marie Laurencin, c'est grâce à Joe Dassin. Bon, à part la boutade, c'est vrai que que voilà, elles sont invisibilisées, elles sont derrière les hommes. La gravure, c'était un sous-genre qui leur permettait de qu'on les laisse faire. C'est un peu ça.
Non, c'est une pratique qui leur permettait de travailler en atelier et qui est une pratique aussi qui leur a permis de diffuser leur œuvre. À la différence des œuvres uniques, la peinture est difficile à montrer et à vendre, tandis que la gravure, elle, peut être diffusée, notamment à travers le livre. Là, nous sommes dans une salle où nous présentons des éditions illustrées. Et le livre illustré, le livre d'artiste, comme on l'appelle, est un instrument important pour obtenir
mais
une reconnaissance.
Mais vous avez utilisé le mot revendication, hein. Ça veut dire que oui. C'était plus difficile d'aborder une galerie d'art, de vendre des tableaux.
C'était. Les choses ont changé.
Ah bah j'espère, là, on parle de j'espère.
Mais alors, ouais. pour revenir à ce que disait Léa tout à l'heure, pourquoi 1930? C'est parce que c'est un peu la première génération des artistes professionnels qui vont essayer de revendiquer un statut équivalent à ceux des hommes peintres, puisqu'on parle de femmes peintres, on ne parle jamais d'hommes peintres, comme si ça allait de soi. Et donc, dans cette première génération, il y a des femmes fortes, vraiment très fortes, des femmes puissantes qui vont présider des sociétés d'artistes, etc., etc. Donc, il ne faut pas nécessairement faire de ces artistes femmes, de ces femmes artistes, de ces créatrices, des figures dominées de l'histoire de l'art. Ça n'est pas du tout le cas, pas toujours le cas.
Alors, c'est probablement pas le cas dans leur personnalité, Léa Béguin, mais dans le grand public, en effet, le patriarcat a fait son œuvre. C'est ça, en fait, le problème.
C'est
on
un
peut
peu
toujours
ça,
ramener à ce mot.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a un certain... jusqu'à un certain point où le génie masculin était plutôt valorisé par rapport au génie féminin. Et je pense que oui, effectivement, il y a eu une invisibilisation jusqu'à un certain point. Et c'est vrai que, comme vous disiez, quand on demande à des personnes qui sont moins, qui connaissent moins l'histoire de l'art, quand on demande de citer un nom d'une peintre, une peintresse, des fois on dit aussi. Par exemple, il y a le nom de Frida Kahlo qui sort, mais c'est vrai que c'est un peu.
J'aurais pu penser.
Ouais, voilà. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que. Il y a peu d'artistes qui ressortent comme ça.
Oui, ou des femmes de peintres,
oui,
les
voilà.
Sonia Delaunay, oui, par exemple, etc. Et on a ces quatre figures ici dans l'exposition, c'est-à-dire de couple.
Ah bah, c'est le cas pour Frida Kahlo avec Rivera, c'est le cas pour Camille Claudel qu'on évoquait, alors c'est la sculpture. Camille Claudel-Rodin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement révélateur. Hein. C'est la partie visible de cet iceberg-là.
Et plus récemment, il y a Niki de Saint-Phalle et Tingly, etc.
Bon, avec 50 ans de distance peut-être, et puis déjà les choses qui avaient changé, parce que Niki de Saint-Phalle a eu une vraie renommée et n'a pas été enfermée dans un asile, enfin pour autant que je le sache.
Non, mais regardez à la télévision ou sur internet les interviews de Tinguely et Niki de Saint-Phalle et vous verrez bien comment se jouent les relations de genre, comme on dit, entre artistes hommes et artistes femmes face aux médias.
On s'adresse à l'homme et puis la femme est à côté, hein, c'est ça.
Un peu, mais c'est dans la prise de parole, c'est dans la manière de se positionner, dans les postures, c'est très frappant. Ouais,
ça pourrait faire mal aux fribourgeois que je suis, mais on pourrait dire que Niki a gagné. On la connaît plus que Tinguely aujourd'hui, non ?
Actuellement, c'est une superstar, comme Germaine Richier, etc. Elle fait partie un peu de la phase, on pourrait dire, revanche. La revanche des femmes.
Si on parle de Frida Kahlo et Diego Rivera, c'est la même chose. Hein. Diego Rivera était une superstar à son époque. Aujourd'hui, on ne parle
maintenant
plus que de Frida. Bon, on va revenir quand même à ces femmes artistes romandes avec leur destin. Donc, Léa Béguin, on n'a pas affaire à une cohérence de style. Hein. Il y a toutes sortes de styles, toutes sortes de supports. Philippe Canet elle le disait tout à l'heure. Comment vous avez fait? Alors déjà, vous avez indiqué quelque part que la fondation est riche d'artistes femmes. Ça veut dire quelque chose, ça?
Oui, c'est parce qu'on a 30% d'artistes qui sont femmes. Et lorsqu'on regarde par rapport aux collections des musées, c'est beaucoup plus. Mais c'est pas la parité, mais c'est beaucoup plus que lorsqu'on regarde les collections publiques ou les collections du musée.
Donc les musées sont plus... voilà, il faut un MeToo musée.
Moi, ça me dit
tout à fait ça, mais... parce que les choses sont en train de s'inverser.
Mais alors ça c'est vraiment, puisque vous êtes historien d'art tous les deux, mais Philippe Canel, je me tourne vers vous, il y a une vraie tendance dans les travaux des historiens, en musique c'est très clair aussi, on va rechercher les compositrices, au cinéma on apprend que les premiers films scénarisés c'est une femme, j'ai oublié son nom mais ça m'avait assez marqué de l'apprendre, vous vous inscrivez dans cette vague-là qui est une vague très positive.
Oui mais on n'est pas militant pour autant, on n'a pas de cause à défendre. On aimerait simplement rendre compte d'une partie des collections de la Fondation Atelier d'Artistes et se trouve qu'une partie signifiante, enfin importante de ces collections est constituée par des œuvres de créatrices. Donc c'est ça la démarche. On ne va pas, ici, dans le cadre de cette exposition, faire du militantisme. Ça sera peut-être le discours tenu par les artistes qu'on va inviter pour diverses tables rondes, mais on verra. On verra.
On va pas tirer de généralité, mais elles ont eu des vies d'artistes sereines, difficiles, frustrées. Si on pense justement à cette invisibilisation, à cette difficulté à s'accrocher aux cimes des galeries, pour ce qu'on en sait.
Très variable.
Il y a sûrement des destins variables, bien sûr.
C'est très variable. Tous les artistes ne sont pas Van Gogh ou Picasso, hein. Torturés ou dominants. On a tous les cas de figure dans le cadre de ces artistes. Il y a des femmes qui ont vraiment, comme je l'ai dit, joué un rôle important, institutionnel, des femmes fortes, vraiment, comme Violette Dizeran, Christiane Cornu, Nanette Genoux. Et puis, d'autres femmes qui ont plutôt misé sur soit les arts appliqués, soit une certaine forme d'intimité.
Et même, par exemple, Christiane Cornu, elle enseignait, donc elle réalisait ses créations pendant les vacances. Donc il y a aussi... Il y a vraiment des artistes, même si c'était une artiste forte, elle devait quand même travailler aussi en tant qu'enseignante à côté.
Est-ce qu'on a théorisé, Philippe Canel, quand des femmes surgissaient, on parlait de Camille Claudel par exemple, mais il y en a eu d'autres, des impressionnistes, etc. Est-ce que les critiques d'art de l'époque, garants du bon goût, théorisaient une faiblesse de la femme par rapport à la création masculine? Je pense à ça parce qu'en musique, toutes les critiques sur Germaine Taillefer par exemple, qui faisait partie du groupe des Six dans les années 20, c'était, voilà, très bonne musicienne, mais c'est joli, c'est frais, c'est aéré, etc. C'était que des mots comme ça, des mots qu'on estimait devoir étiqueter sur la femme, et jamais on aurait dit les mêmes mots sur Francis Poulenc, qui était son copain du groupe des Six, par exemple.
Aujourd'hui, dans un autre domaine qui est celui de la politique, les remarques sur les tenues vestimentaires des femmes sont pas monnaie courante, mais sont fréquentes. On ne parle jamais de la tenue vestimentaire des hommes. Non, indépendamment de ça, c'est vrai que l'aspect femme est un aspect qui a toujours été pris en compte dans le discours critique, souvent de manière critique au sens négatif du terme, mais ça n'est pas le facteur explicatif de leur vie et de leur carrière. Ça n'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles ont réussi ou qu'elles n'ont pas réussi. Il y a toute une série de facteurs qui entrent en ligne de compte. Là, on pourrait venir parler de certaines figures exposées pour voir dans quelle mesure certaines venaient par exemple de milieux bourgeois, n'avaient pas trop de questions à se poser pour faire bouillir la marmite. D'autres, par contre, ont vraiment trimé toute leur vie. Certaines ont pratiqué l'abstraction et donc essayé de miser sur cette modernité-là. D'autres ont misé plutôt sur la figuration. Léa a travaillé beaucoup sur l'abstraction, par exemple.
Oui, parce que c'était un mouvement qui, à la première moitié du XXe siècle, était de l'avant-garde, donc qui était considéré comme un geste plutôt viril et masculin. Et donc, à la deuxième moitié du XXe siècle, il y a énormément de femmes qui se sont consacrées à l'abstraction. Donc, pourquoi cela ? Est-ce que tout d'un coup, c'est une manière de s'éloigner d'une certaine féminité, comme vous parliez par exemple dans la critique ? Donc, d'avoir un geste qui va s'éloigner de ces remarques qui peut parfois être un peu sexistes, ou juste une manière de pouvoir s'intégrer à des cercles. L'abstraction à la deuxième moitié du XXe siècle, c'était adopté, que ce soit aux États-Unis, en France, donc pouvoir aussi rentrer dans des cercles nationaux, mmh, internationaux.
Et des cercles de vente, j'imagine.
Aussi, oui, aussi, effectivement.
C'est même, mmh, même s'il ne fallait pas toujours faire bouillir la marmite, il fallait, il fallait voir, enfin voilà, être vu, hein, et, mmh, et possiblement vendu. Merci à tous les deux. Cette émission se termine. Femmes et artistes après 1930, donc jusqu'au 7 juillet à la Fondation Atelier d'Artistes. Donc c'est dans la Grand Rue de Saint-Maurice, et avec quelques événements, hein, les samedis. Oui. Juste un mot, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est pas ouvert tout le temps, hein, la Fondation.
Non, c'est pas ouvert tout le temps et c'est gratuit.
Ah bah ça c'est,
oui,
bien.
Oui, ça il faut quand même le préciser.
Voilà, c'est ouvert les vendredis et samedis après-midi, les premiers dimanches du mois. C'est bénévole, hein, donc oui, pas les moyens de conserver toutes les œuvres de Suisse romande et en plus d'être ouvert tous les jours.
Non. C'est ça, on peut pas tout faire.
Et en plus il y a une belle publication que vous pouvez acquérir sur place.